Madame Boivin, bon matin.
Bon matin.
Félicitations.
Merci.
Ben moi, je vous ai parlé durant l'intérim que vous avez accepté, puis je vous ai trouvé très bonne, je vous ai trouvé bonne communicatrice.
Ben merci bien, c'est peut-être pour ça que mes membres m'ont choisi.
J'imagine. Madame, vous arrivez dans un contexte tout à fait particulier. J'aurais envie de vous demander ce matin, quelle est la situation actuellement là au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le réseau de la santé?
C'est très difficile présentement, partout, là, dans chacune des installations. C'est sûr qu'il y a des installations où est-ce que présentement la pression est plus élevée, mais dans l'ensemble des installations, c'est difficile. Il y a du temps supplémentaire obligatoire. Puis dans certains secteurs, on a aussi là l'employeur utilise là, l'arrêté 007 pour enlever de nos conditions de travail. Alors, ça devient difficile.
OK, tout ça parce qu'il y a des employés qui sont absents, c'est ça?
Des employés absents, beaucoup de patients qui sont COVID positifs. Le CIUS doit ouvrir là, régulièrement des lits. Puis même en fin de semaine, là, on peut appeler ça un point de rupture où est-ce qu'il y avait des besoins d'ouvrir du côté de l'installation Chicoutimi 8 lits supplémentaires pour accueillir des patients positifs, puis ils étaient incapables d'ouvrir ces lits.
Mais pourtant, les chiffres nous indiquent qu'il y a 60 hospitalisations COVID actuellement dans la région. 60 cas de COVID brouillent complètement le système?
Il y a quand même la vraie vie qui continue. La vraie vie où est-ce que les patients ont aussi d'autres pathologies puis qui doivent être là hospitalisés pour différentes raisons. Et qu'on prend tous ces patients-là qui ont d'autres affections, plus la clientèle qui ont une maladie de leur maladie de base, c'est la COVID, ou sinon ils ont autre chose, puis ils arrivent positifs à l'hôpital, ce qui complique là, les soins à donner à cause de la prévention. Mais tout ça ensemble met énormément de pression sur les professionnels en soins.
Mais quelqu'un qui arrive puis qui est testé positif à l'hôpital, mais qui n'est pas vraiment malade, vous le retournez à la maison?
Oui, ça c'est évidemment, c'est sûr.
Mais il y a un protocole à faire parce qu'il est passé dans l'hôpital, j'imagine, après?
C'est les précautions. Du moment où, mettons, le patient se présente à l'urgence, oui, là, il est positif, mais il repart, le personnel se protège et tout ça, il n'y a pas d'impact. Mais du moment, si on prend un exemple comme d'une patiente qui arriverait pour accoucher, dépistage, tout ça, là, pour ses soins à elle, là, il y a vraiment là, toute une logistique qui est plus intense où est-ce qu'on doit se protéger. Puis tout ça prend plus de temps, mais plus de pression là, sur les équipes de soins. On prend un patient aussi qui va du côté du bloc opératoire, qui aurait un diagnostic de COVID. Oui, toutes les mesures qui doivent être mises en place prend plus de personnel, puis prend plus de temps.
Là, vous avez gagné la bataille du N95?
Oui.
Alors, c'est en fonction actuellement?
C'est en fonction présentement. On l'a appris là vendredi là en même temps que nos membres où est-ce que la consigne de soins est descendue. Ben la consigne de CNSST est descendue, a été appliquée le vendredi quasiment à 16h. Mais oui, là, les professionnels en soins peuvent enfin là être protégés là, adéquatement. C'est sûr que ça fait 2 ans qu'on est dans la pandémie. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui se demandaient comment est-ce qu'on en est arrivé un vendredi 16h à avoir une obligation de porter le N95. Comme ça, quand ça fait quasiment 2 ans là, qu'on nous dit que le masque chirurgical est convenable. Il y a eu une petite incompréhension, là, mais oui, aujourd'hui, on est content que nos professionnels en soins soient protégés.
Oui, ce n'est pas la première incompréhension que nous avons depuis le début de la pandémie, on va se le dire. Ce matin, vous, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que le docteur Arruda quittait ses fonctions?
J'ai été surpris, mais je vous dis, j'ai pas très suivi hier. J'avais une soirée électorale aussi, fait que j'ai pas trop suivi ce volet-là.
OK. Mais vous avez été surprise? Vous me dites?
Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs incompréhensions depuis le début. Les consignes, la pression était probablement trop élevée là, de son côté. Puis on sentait là, une perte d'adhésion. Au début, on voyait une grosse adhésion envers toutes les consignes. Là, moins. C'est assez difficile d'être dans des positions comme ça.
OK. On nous a dit il y a quelques jours qu'il manquait 500 employés dans le réseau de la santé régionale. Puis, évidemment, quand on voit les images à la télévision, des reportages, on nous parle toujours des centres hospitaliers de la région métropolitaine ou de son pourtour. Mais ce que je comprends, c'est que ici dans la région, la situation, comme vous m'avez décrivé, est très difficile. Puis, nous aussi, on va arriver à du délestage niveau 4 tantôt.
Pour l'instant, la pression est vraiment de plus en plus là, d'employés sont positifs. On a besoin d'ouvrir de plus en plus de lits. Les prédictions d'hospitalisation sont très élevées. Le CIUS là, a des consignes du ministère pour augmenter là, graduellement son nombre de lits, mais on est incapable d'ouvrir des lits là à petite bouchée là, présentement dans les installations. Puis il n'y a pas de magie, il n'y aura pas d'autobus d'infirmières qui va arriver. Ça passe essentiellement là, par fermer certains secteurs, juger, je dis bien juger, là, mais tu sais, tous les secteurs sont importants, mais juger moins critique pour prendre ces professionnels en soins-là puis les rapatrier dans les milieux où est-ce que la pression va être plus élevée,
donc,
malheureusement.
Chez nous aussi, on reporte des chirurgies, etc., etc.?
Oui, les blocs opératoires ont tous diminué là, leur capacité. Si on prend le bloc opératoire de Chicoutimi, leur capacité est diminuée à 50 % pour dégager des ressources. Puis dans chacune des installations aussi, il va falloir peut-être là, qu'ils arrivent à plus que ça, parce qu'on ne peut pas en inventer là, des professionnels en soins.
Est-ce qu'on vous consulte?
On nous avise, on nous consulte, on nous demande si on a d'autres solutions. Il y a quand même moyen de leur soumettre des idées. Est-ce que ces idées-là sont prises? Pas toujours, mais c'est si on prend l'arrêté où est-ce qu'on nous enlève nos conditions de travail qui a été utilisées dans le passé. Il y a une meilleure utilisation de cet arrêté-là. Oui, elle est dérangeante, elle est contraignante pour les personnes là, qui sont ciblées ou est-ce que leur vie change du jour au lendemain là, quand ils ont l'appel, mais elle est faite de façon plus pointue. On a vu dans le passé où est-ce qu'ils l'appliquaient de façon unilatérale, tout le monde, on comprenait pas. Mais là, cette utilisation-là est plus pointue parce qu'elle a causé tellement de dommages dans les autres vagues où est-ce qu'il y a eu des démissions et est un petit peu mieux appliqué, mais vraiment dérangeant.
En tout cas, je suis heureux de savoir qu'on vous consulte. Madame Boivin, merci beaucoup, puis bon mandat.
Ben merci bien, bonne journée.
Au revoir. Bonne journée. Julie Boivin, la nouvelle présidente de l'AFIC au Saguenay-Lac-Saint-Jean.